Et on a le retour parmi nous ce soir, messieurs, dames, de Pierre Rondeau. Pierre, bonsoir.
Bonsoir. Le retour.
Salut Pierre.
Ah oui, c'est toi qu'on a appris des trucs, mon petit gars, hein, dans l'intervalle. On a appris que t'es à l'origine de certaines décisions.
Alors oui, c'est un bien grand mot ça. C'est moi le responsable de l'arrêt de la...
Oui, oui, on va y revenir tout de suite d'ailleurs dans quelques secondes.
Il a fourni un rapport, après les gens font ce qu'ils veulent avec le rapport.
Exactement. Moi je vous fournis les documents. Après vous prenez la décision.
Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui viennent ? La commission de discipline, on attend le résultat bien sûr, dès qu'on l'a, on vous le donne et on en débattra. Mais on a prévu un dossier business qui, vous allez voir, va vous intéresser ce soir. Déjà, revenir sur, effectivement, les conditions de l'arrêt de la Ligue 1, parce que donc il y a des choses qu'on apprend. Et Pierre est bien placé pour nous en parler. Et évoquer ce qui se passe aujourd'hui chez les diffuseurs. Parce que il y a des choses qui commencent à sortir, notamment les chiffres d'abonnés à la chaîne Téléfoot, les perspectives à venir concernant Mediapro et la Ligue qui prépare déjà d'éventuels scénarios. Parce que c'est ça la vie d'une entreprise, il faut anticiper d'éventuelles difficultés comme d'éventuels succès d'ailleurs. Donc les différents scénarios sont possibles. Mais Daniel, on va démarrer quand même avec Pierre. Par son rapport, pour qu'il nous explique.
Bien sûr. Bah, c'est surtout que je ne le savais pas, que j'ai appris la semaine dernière. Tu m'as envoyé un gentil mail pour me dire « Mais est-ce que tu savais que... »
Ça m'a fait rire, parce que justement, dans le très bon livre de Daniel, il parle d'une étude d'impact de l'arrêt de la saison de 2019-2020, commandée par l'UNFP, en parlant justement de ce rapport que personne n'a lu, personne ne connaît l'écrivain, le scénariste, en tout cas l'auteur de ce rapport. Ça m'a fait rire parce qu'en le lisant, c'est moi qui l'écris ce rapport.
Donc il lit mon livre, moi je parle de ça, il m'envoie un mail, il dit mais le rapport que personne n'a lu, c'était le mien.
Oui, mais alors c'est quoi, c'est un rapport qui était confidentiel.
C'est un rapport qui était confidentiel. Donc je précise, j'ai demandé l'autorisation à l'UNFP, est-ce que je pouvais en parler ? Parce que justement Daniel m'a dit mais attends, il faut que tu en parles, il faut que tu le saches. Moi je pensais que tout le monde le... Oui, mais je pensais au départ que tout le monde le savait, puisque j'avais des retours de présents de club qui m'en avaient parlé justement et qui m'avaient dit effectivement le rapport, on l'a lu et j'ai même envie de vous dire que sur le rapport, il y a mon nom à chaque page. Donc normalement, si on l'a lu, on sait qu'il l'a écrit. Et donc j'avais demandé à l'UNFP la semaine dernière, justement, quand c'était parlé avec Daniel, si je pouvais en parler, parce que j'avais signé une clause de confidentialité. C'est pas mon rapport, je l'ai vendu finalement ce rapport.
Gaston Deutsch qui était chez lui à Metz, tranquille. T'as bien dit, c'est bon, tu peux en parler.
Ah, donc toi, t'as vendu un rapport. Donc attends. À ce stade de la compétition, donc tu as vendu un rapport à l'UNFP.
Alors non, je l'ai pas vendu, c'est eux qui m'ont commandé
si on arrête la Ligue 1, qu'est-ce que ça coûte au club?
Voilà, exactement, il faut refaire tout le scénario mais très rapidement. Voilà, il faut se rappeler comment c'était. Moi, je l'ai écrit, je suis allé vérifier parce que je m'en souvenais plus précisément, je l'ai écrit le 16 avril. Enfin, je l'ai transmis le 16 avril. Tout le mois d'avril.
Donc on était à quelques jours après le confinement.
Quelques jours, c'était fin mars. Et avant justement l'annonce d'Edouard Philippe le 24 avril de l'arrêt des championnats, des championnats sportifs.
28,
et à ce moment-là,
le 28. Tu sais qu'il y a le poisson d'avril là, c'était les
déclenches. Est-ce que Gaston Deutsch, quand il fait sa tribune dans Le Monde, est-ce qu'il a déjà ton rapport?
Ce rapport, bien sûr, puisqu'il en parle dedans.
Oh mon Dieu, c'est toi qui l'as mis dedans.
J'ai même aidé.
C'est toi qui l'as mis dedans, Gaston Deutch.
Alors, il faut bien comprendre.
T'as ruiné sa carrière, Pierre.
Attention, il faut bien comprendre, parce que là, vous allez dire, je suis responsable, ou l'UNFP est responsable de l'arrêt de la Ligue 1. C'est plein de choses qui sont passées. Vraiment, on a vécu une période extraordinaire, exceptionnelle, historique. Et c'est pas l'UNFP ou Gaston Deutch qui serait responsable
de l'arrêt de la Ligue 1. C'est l'un des éléments.
C'est l'un des éléments
concrets.
Visiblement, ils l'ont mal lu, ton rapport.
Ton rapport préconisait l'arrêt de la Ligue 1?
Non. Moi, j'ai jamais pris parti pour l'arrêt ou la reprise. Moi, simplement, on m'a demandé que se passerait-il économiquement parlant et strictement économiquement parlant, sans les effets indirects ou induits d'un arrêt de la saison, combien ça coûterait pour le football français professionnel si on arrêtait la saison.
Ça, c'est intéressant parce que Jean-Michel Aulas n'a pas les mêmes chiffres que tout le monde. Alors,
C'est pour ça que j'étais assez content finalement, content de loin, puisque la DNCG a chiffré le coût de l'arrêt à 291 millions d'euros au mois de juin. Moi, au mois d'avril, je le pronostiquais à 333 millions d'euros. J'étais quasiment...
330 millions près, c'est un faux fan.
Voilà, alors que Aulas, c'était 1 milliard.
Jean-Michel Aulas, quand même, on peut le dire maintenant, on était d'accord avec lui sur le fait de ne pas arrêter, nous. Mais il a quand même légèrement surévalué l'impact.
Légèrement.
Si on se rappelle bien, ce n'était pas ceux qui voulaient arrêter et ceux qui ne voulaient pas arrêter le problème. C'était de ne pas décider, d'être aussi con de décider le 28 avril, alors que tu pouvais...
La rapidité de la décision.
Je ne sais pas si l'information a été donnée sur les antennes d'RMC, mais il y a un élément qui est important, c'est qu'avant justement l'annonce d'Edouard Philippe, et même avant que je rédige ce rapport, un protocole de reprise avait été rédigé. Bien je l'ai sûr, d'ailleurs sur mon téléphone portable. Le protocole de reprise du sport professionnel avait été décidé. Moi, il date du début du mois d'avril.
Par qui ? Par la Ligue.
Par la Ligue.
Par la Ligue.
Par,
la
Ligue, pardon, par le foot. Par le foot. Même que du sport professionnel, ça peut sous-entendre tous les sports professionnels.
Tout était prêt pour reprendre, tous les protocoles étaient prêts.
À la fois pour le sport amateur et le sport professionnel. Et il y avait un protocole fixe et cadré sur le cas du sport professionnel. Après, il y a eu l'annonce d'Edouard Philippe, il y a eu le président, là, donc tu le dis dans ton bouquin, Daniel, qui a appelé Deschamps et Le Graët pour savoir ce qu'ils en pensaient, ce qui est d'ailleurs assez étonnant de mon propre avis, puisqu'on n'appelle pas les gens de la fédération.
Voire même hallucinant.
Pour savoir ce qui se passe au niveau de la Ligue. Il faut savoir aussi, c'est pour ça que je...
Et puis Didier Deschamps, bon, bah, a priori, il n'a rien à voir à l'histoire.
C'est bien, et c'est vrai que Daniel, tu l'as souvent dit à l'antenne, l'UNFP n'est pas responsable de l'arrêt. L'UNFP a donné un avis. L'UNFP représente les joueurs professionnels. À ce moment-là, les joueurs pros, faut quand même se rappeler quel était le contexte sanitaire. Il y avait une peur qui vraiment était très importante au sein des effectifs, au sein des joueurs. Ils avaient justement commandé une enquête auprès des joueurs, un sondage, s'ils voulaient ou non reprendre. Et à 70%, les joueurs ne voulaient pas reprendre. Donc, en tant que syndicat des joueurs, l'UNFP a simplement demandé combien ça coûterait. Si on arrêtait la saison, ça coûtera 333 millions d'euros. Bah, face ensuite aux déclarations d'Olas de dire que ça coûtera 1 milliard, c'est inquiétant. L'UNFP a dit non, pas du tout. Ça sera pas dommageable. Dans ce rapport ensuite, je mets en avant les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement lutter contre ce déficit. Je parle justement avant que ça soit mis en place du prêt garanti d'État, des subventions, du chômage partiel, du fait que les droits TV vont augmenter cette saison, donc à l'époque l'année prochaine, pour compenser la perte due à l'arrêt de la saison. Donc c'était chiffré. Le plus important aujourd'hui, c'est que la crise se poursuive. Et aujourd'hui, c'est très inquiétant. Aujourd'hui, c'est pour ça que vraiment, je mets ça en avant. La saison dernière, ok, perte 291 millions d'euros.
Tout le monde dit que c'est la saison de 2021 qui est la plus périlleuse.
2021 et 2021-22, ça va être catastrophique parce que 2021-22, seulement tu vas devoir rembourser les prêts.
Eh ben, évidemment.
Où les charges vont revenir.
Évidemment.
Où tu auras déjà intégré là où c'est droits TV, et même tu vas en parler, les droits TV, on n'est même pas certain qu'ils se maintiennent.
Alors, n'allons pas trop vite.
2021-2022, la saison très très inquiétante.
N'allons pas trop vite. Quand toi tu estimes à 300 millions, c'est ce que tu dis,
333 millions,
comment tu calcules ça?
Alors c'est très simple, c'est un calcul tout simplement économique. On regarde les budgets moyens, les chiffres et les résultats des clubs sur la billetterie, sur le revenu de sponsoring, de marketing, merchandising, sur les droits TV. Et on estime que dans la mesure où 73% des matchs ont lieu et qu'il manque justement cette fin de saison, le coût de cette fin de saison va être directement impacté sur les recettes billetterie.
En fait, au fond, on n'aura jamais le vrai chiffre.
Le vrai chiffre, en tout cas officiel, je ne sais pas si c'est le vrai chiffre, mais le chiffre officiel,
et moi, le
DNCG, 291 millions d'euros.
291.
Non, celle-là, tu l'auras jamais, Roland.
Côte laquelle?
Parce que bon, là.
Pourquoi on n'a pas attendu un mois pour décider?
Non, je le félicite de ce boulot, puisque ça nous met quand même un petit peu les pieds sur terre, et que ça nous fait un petit peu réaliser. On apprend aussi, et c'est vrai que c'est logique que ça sera très compliqué 21-22, mais quand on a une décision aussi importante, mais pourquoi que ce soit pour l'achat de quelque chose, pour la vente de quelque chose, oui, et qu'on te donne la possibilité d'avoir un mois pour réfléchir, et que tu prends avec cet empressement, cette décision le 28 avril, qui est le con qui a pris cette décision en fait, le 28 avril?
En fait, c'était une tripotée de cons.
Il y a eu, et en fait, c'est multifactoriel. Il y a plein de. On pourrait en faire un livre, hein. Daniel, dans son bouquin, en parle, mais vraiment, on pourrait en faire un bouquin entier sur l'arrêt de la saison. Il y a eu énormément de facteurs. Alors, l'UNFP en fait partie, est un des acteurs, mais tu rajoutes à ça, politiquement, le président, la ministre des Sports, les ministres délégués qui n'ont pas du tout respecté le secteur sportif. Je prends juste un exemple, moi, qui m'a frappé au moment du confinement, quand on entend Roselyne Bachelot, qui avait été ministre des Sports, et qu'aujourd'hui est ministre de la Culture. Non. Le plan de relance de la culture, c'est 2 milliards.
Excuse-moi,
du sport, c'est 120 millions. Et elle dit, on n'a pas à soutenir les sportifs en période de crise sanitaire.
Excuse-moi de te couper, parce que peut-être le con, c'est moi. Donc, puisque j'essaie de comprendre le pourquoi on peut prendre une décision le 28 avril alors qu'on a la possibilité de la prendre le 28 mai.
L'explication est purement politique, c'est que dans le contexte dans lequel on était, mais ça, c'est pas ça qui dépasse le cas du football, c'est un contexte sociétal avec une inquiétude de la population face à l'incertitude de ce qu'était cette pandémie, de comment, de la gestion, de toute la crise des masques, du dégel. Il y a eu plein de questions parasites. Il a des tests. geste, il a fallu.
Donc en gros, on s'est dit, on va supprimer un problème en arrêtant.
Le foot a morflé symboliquement. Le sport a morflé symboliquement parce qu'en France, on n'arrive pas à concevoir que le football, c'est quelque chose qui est important sociétalement aussi. On a toujours tendance, Daniel l'écrit très bien dans son livre, on a toujours tendance à le mépriser et à dire que c'est une affaire de bas étage. Et du coup, c'est un petit peu la solution à la fois et facile et symbolique pour un gouvernement qui était en perte de, qui était en train de perdre pied. C'est tout simplement ça, Roland, c'est politique.
Et il y a parmi les, il a raison Pierre, il y a beaucoup, c'est multifactoriel pour arriver à cette connerie. Mais il y a un truc qui, moi, m'a toujours sidéré. C'est le truc qui m'a à la fois fait le plus rire et qui m'a laissé le plus bouche bée. Et on me l'a encore redit aujourd'hui, encore un président me l'a dit aujourd'hui, c'est que à la Ligue et la majorité des présidents de clubs, comme tu dis, se sont précipités en étant sûrs que les autres allaient faire pareil.
Ouais.
Ça, c'est le truc qui me l'est. À chaque fois que je l'entends, que les présidents me le disent, je me dis, mais la France, donc, avec son foot, ce que ça compte et tout, vous avez cru que les autres, ils allaient faire comme vous.
C'est-à-dire que
cette arrogance et cette prétention, moi, je n'en reviens toujours pas.
Macron a essayé, il a pris Angela Merkel pour demander qu'elle aille
quand même.
Je suis content que tu confirmes ça parce qu'il
y a eu quand même un excès de prétention.
Un excès, mais.
Dans le sens que on a pensé qu'on allait être des exemples.
Justement, mais limite, on s'est précipité pour dire, les gars, ils vont tous faire pareil que nous.
Par rapport à ça,
parce qu'ils sont intelligents, ces Français, là.
Pierre, j'ai une question par rapport à ça.
Il faut vraiment les suivre,
hein. T'as estimé les pertes sur la saison, donc il n'y a pas été terminé. Mais est-ce que t'as déjà fait des prévisions, des estimations sur les externalités négatives qui vont découler de tout ça? Externalités négatives en termes d'image de notre championnat vis-à-vis des autres, qui eux ont repris et qui ont quand même réussi à ça. Et surtout, je pense à une chose, c'est sur la valeur marchande des joueurs qui n'ont pas pu finir la saison. Et tous les joueurs qui étaient dans une situation, je sais pas moi, Memphis Depay, Thauvin, une année de leur fin de contrat, qui auraient pu être valorisés et être vendus à ce moment-là.
J'ai pas fait cette estimation, elle a été faite par l'ECA, le syndicat européen des clubs, qui estime que pour la saison 2020-2021, donc on est pour cette saison actuelle, avec tout ce que tu viens de dire, les effets induits, indirects, externalités négatives, on est sur du 2,9 milliards d'euros pour les 10 premiers championnats européens. 2,9 milliards d'euros de pertes.
Ah oui.
Et pour la France, juste.
Alors, c'est pas dans le détail, c'est pour les championnats cumulés. Pour donner un simple exemple.
Parce que j'aimerais savoir pour la France, puisqu'on est le seul con qui n'a pas repris.
Bah alors, c'est tout le paradoxe, et c'est toute la chose à comprendre, c'est que malgré tout, c'est pas gravissime sur ce niveau-là. Là où ça va être gravissime, c'est la durabilité de la crise. C'est le fait qu'on joue une saison entière, possiblement à huis clos. C'est le fait qu'on ait des pertes cumulées qui provoquent une réduction, une dévalorisation des joueurs sur le marché des transferts, un retrait des sponsors et des partenariats commerciaux. Ça s'est fait en rugby. Pour l'instant, on l'a pas vu en France, en tout cas en foot.
La dévalorisation des joueurs peut-être un petit peu.
Très fortement. Et je prends le cas du sponsoring. Alors, on avait Stéphane Bazin qui, l'année dernière, pendant le confinement, la perte en hôtellerie et en tourisme.
Sébastien
Bazin. C'est 10 milliards de dollars. Il avait dit peut-être que le sponsor du PSG pourrait peut-être envisager de renégocier le contrat à la baisse. Ça a été fait là pour la Fédération Australienne de Rugby. Qantas s'est retiré du sponsoring. Et il se pourrait qu'au-delà de la valorisation des joueurs et de leur valeur marchande, le gain de trading pour les clubs français.
Parce que c'est un peu le modèle qui est en train de s'imposer pour tous les clubs de Ligue 1. C'est ça que c'est quand même inquiétant.
Ce que tu veux, c'est que si à l'étranger, par exemple, tu prends l'Angleterre, ils ont terminé le championnat malgré. La saison finie, c'est 700 millions de livres de pertes malgré la fin de la saison.
Donc, et cette année, ça va être pareil.
Et eux, c'est 100 millions de livres par mois.
Combien tu dis ?
100 millions de livres par mois.
Par mois, c'est ça.
Énorme.
C'est ça.